La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Cela s'est passé dans différents points d'Europe, entre 1700 et 1600 avant notre ère. On sait précisément qu'à cette époque, les premières épées sont sorties d'atelier. Il s'agit d'un moment clé avec ces objets qui se rapportent spécifiquement à la violence et à la guerre. Et les armes pour entrer dans la guerre, c'est justement l'objet de notre dossier dans un instant pour comprendre les moyens, les mécanismes des conflits armés, mais également les sociétés de l'époque. C'est l'objet du travail de mon invité, l'archéologue et historienne Anne Loerf. J'attendais maintenant vos messages, toutes vos questions pour en discuter. France Inter. Et le mot-clé, l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, le petit cerveau de notre cousin sud-africain Homo naledi.
Oui, petit comme une orange, mais avec des structures complexes comme chez l'homme moderne. Ce cerveau et son possesseur Homo naledi sont décidément bien mystérieux. On en discute avec le paléontologue Jean-Jacques Hublin.
Et puis nous retrouvons comme tous les jeudis la chronique de santé polémique du docteur Dupagne qui sera consacrée tout à l'heure aux jeunes. Fanny Boyon réalise cette tête au carré, préparée par Sophie Vaux avec Hannibal Wachi.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Anne Loerf.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes archéologue et historienne et vous publiez ce livre Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre. Ça sort chez Belin. Les armes à elles seules peuvent donner des renseignements très précieux pour comprendre les sociétés humaines de nos ancêtres européens, par exemple.
Oui, tout à fait, dans la mesure où elles ont des formes particulières qui évidemment indiquent à la fois des fonctions, des fabrications et puis la rencontre entre ces objets et des utilisateurs qui ont donc été sur des champs de bataille.
Oui, donc on va explorer tout cela, on va voir pourquoi justement un jour la guerre a commencé, hein, ce qui a pu modifier justement ces sociétés et quels sont les objets aujourd'hui que retrouve l'archéologie et qui renseignent sur cette histoire. On en parle avec les auditeurs qui nous rejoignent sur le site de La Tête au Carré. À tout de suite. C'est l'une des grandes découvertes paléontologiques de ces 10 dernières années. Le cerveau d'Homo naledi est aujourd'hui à la une de la science.
Un lointain cousin, jusque-là inconnu. Une espèce ancienne d'hominidés qui vivait en Afrique du Sud à une époque qui n'a pas encore été précisée. Son crâne est allongé, ses mains sont solides avec des pouces démesurés, ses pieds ressemblent de façon troublante aux nôtres.
Voilà, c'était le 10 septembre 2015 à Johannesburg, le jour de l'annonce de sa découverte. Et un cerveau certes petit, mais avec des structures modernes indéniables, Homo naledi, donc découvert en 2013 par les équipes du paléontologue Lieberger, fait décidément couler beaucoup d'encre. Ses restes, soit plus de 1500 ossements, ont été datés un peu trop vite, d'abord à 2 millions d'années lors de son annonce. Il est maintenant admis que naledi a vécu en Afrique du Sud il y a environ 300 000 ans. Une étude approfondie de sa cavité crânienne vient d'être publiée. On en parle, Axel, avec notre invité.
Oui Mathieu, nous sommes au téléphone avec Jean-Jacques Hublin. Bonjour.
Bonjour Axel et Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue à l'Institut Max Planck de Leipzig. Alors le moins qu'on puisse dire concernant naledi, c'est que quelle que soit la partie du corps qu'on regarde, c'est toujours étonnant.
Oui, c'est un être très très mystérieux qui a été découvert dans cette grotte du réseau Rising Star. C'est un être qui est composite, hein, qui a à la fois des éléments anatomiques très primitifs et d'autres qui sont évolués. Et c'est cette mosaïque qui intrigue beaucoup les spécialistes.
Alors concernant le crâne, quels sont particulièrement les caractères qu'on peut qualifier de modernes et ceux qui sont plus archaïques alors?
Alors on a le caractère qui est le plus archaïque, c'est la taille du cerveau, comme cela a été dit il y a quelques instants, hein. C'est un cerveau qui est à peu près la taille d'une orange, hein. Donc c'est trois fois plus petit qu'un cerveau d'homme actuel, à peine plus que chez un chimpanzé et quelque chose de comparable à ce qu'on trouve chez les Australopithèques. Par ailleurs, on a en particulier des caractères dentaires, une réduction des molaires par exemple, qui évoque des formes beaucoup plus tardives.
Et dans le cerveau, on trouve aussi des formes plus modernes?
Oui, alors c'est l'objet de cette nouvelle étude. Qui montre que si on met de côté la taille, du point de vue de la morphologie, ce cerveau... Alors, ne se rapproche pas du cerveau d'un homme actuel, mais se rapproche du cerveau de forme ancienne du genre homo, comme Homo erectus ou Homo habilis. Et donc, en fait, le problème, c'est... ces caractères évolués ont-ils été acquis séparément par Homo naledi à partir d'un petit cerveau d'Australopithèque, ou alors est-ce une forme qui autrefois a eu un cerveau plus gros et dont le cerveau s'est réduit?
Est-ce qu'on peut imaginer ce que ça implique comme capacité, je sais pas, pour faire des objets, utiliser des objets ou même chasser?
Alors c'est cette partie du cerveau qui est étudiée dans l'étude d'Holloway et de ses collaborateurs, c'est une partie du cerveau dont on pense qu'elle est impliquée dans la planification d'action, peut-être dans le langage aussi. Maintenant c'est assez difficile de relier aussi directement que cela la morphologie des lobes cérébraux, surtout vu à travers l'empreinte qu'ils ont laissée sur l'os à l'intérieur de la boîte crânienne, avec des capacités vraiment bien précises. Ce qui est certain, c'est qu'on a un être qui est sûrement plus complexe dans son comportement social, peut-être comportement technique, qu'un grand singe, mais on est encore loin de Mathieu Vidard.
Alors justement, Mathieu Vidard, il a une question à vous poser avec son petit cerveau, Jean-Jacques Hublin, parce que vous venez de répondre finalement à la question que je me posais, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des empreintes sur le crâne, parce qu'évidemment, le cerveau, l'organe cerveau, il passe pas les époques, c'est impossible, hein, on n'a aucune trace de ça.
Oui, c'est ça la difficulté, hein, c'est que le cerveau, il est dans une boîte, et entre cette boîte et lui, il y a un certain nombre de parois, de membranes, et donc il laisse une empreinte qui est assez floue, assez vague sur l'os, mais c'est quelque chose qu'on peut étudier. Hein.
Jean-Jacques Hublin, avec les études qui se succèdent, celles sur les dents, les membres, ici le cerveau, est-ce qu'on peut commencer à dresser un portrait précis de Naledi et pourquoi pas même de ses modes de vie?
Alors c'est une forme qui intrigue beaucoup les paléoanthropologues. Pourquoi? Bien parce que si l'on en croit les dates qui ont été publiées, c'est une forme donc à petit cerveau qui aurait survécu très très longtemps, il y a 300 000 ans peut-être, au milieu de nos ancêtres directs, qui eux avaient un cerveau très grand et un mode de vie que l'on reconstitue assez facilement. Et la question, c'est dans le fond, cet être qui faisait à peu près 1m50 avec son petit cerveau, comment est-ce qu'il a survécu dans ce monde-là? Et on imagine qu'il devait avoir une adaptation très particulière, peut-être une alimentation très particulière, qui ont fait qu'il n'a pas été en concurrence avec ses autres formes dominines. Et c'est vrai que quand on regarde les caractères squelettiques, il y a des choses très bizarres. Toujours cette combinaison de caractères évolués, de caractères primitifs. Donc un pied, une jambe qui est très moderne, si on veut, hein, de bipède, mais une épaule, des mains qui évoquent plutôt un être qui grimpe dans les arbres, peut-être dans les grottes. On n'a pas trouvé d'outillage pour l'instant, en tout cas que l'on sache, avec Homo naledi. Et les premières études sur l'usure de la denture, les traces de dommages montrent une alimentation assez particulière, peut-être des choses très très coriaces, très dures. Donc voilà, c'est probablement un être un peu bizarre, adapté à une niche bien particulière et qui a pu peut-être se maintenir comme ça très longtemps dans cette région-là.
Pour ajouter à la bizarrerie de Naledi, il faut dire que les conditions dans lesquelles ces os ont très bien conservé ont été découvertes sont vraiment intrigantes. C'était au fin fond d'une caverne, il fallait cheminer dans les galeries très longtemps pour atteindre ces ossements.
Bah, cheminer, malheureusement, pas cheminer, il faut ramper, passer dans des galeries très étroites où seuls des individus modernes très minces, et c'est surtout des jeunes femmes qui ont été employées par l'équipe de recherche, peuvent se glisser. On a un peu de mal à croire quand même que les restes d'Homo naledi qu'on trouve au fond de ce réseau sont arrivés par ce chemin-là, dans cette cavité. Probablement qu'il y avait d'autres accès qui aujourd'hui ont disparu.
Il fallait du feu pour naledi pour naviguer dans ces cavernes ?
Ben, là encore, on imagine mal un être avec un cerveau gros comme une orange ou un pamplemousse, dépourvu de feu, apparemment, on n'a pas trouvé de traces, rampant à plusieurs centaines de mètres sous terre, surtout en tirant des cadavres, pour passer dans des terriers absolument inaccessibles. Donc, encore une fois, ce qui est plutôt l'explication, c'est qu'il nous manque une partie du plan d'accès à cette cavité.
Jean-Jacques Hublin, Homo naledi, il y a 300 000 ans en Afrique, ça nous rappelle un souvenir, ça aussi, 300 000 ans, mais un peu plus haut, là, dans le Nord, c'est votre découverte aussi.
Oui, ce sont les hommes d'Hiroud, et donc...
Homo sapiens.
Vraiment, je pense, la chose qui est la plus intrigante, en fait, hein, dans cet Homo naledi que je décrivais tout à l'heure comme un espèce d'okapi vivant dans une région particulière au milieu d'un monde de girafes, hein, cet Homo naledi, il est contemporain sur le continent africain d'au moins une autre espèce humaine, la nôtre, et peut-être même une deuxième.
Ce serait quoi, voilà, la deuxième ?
Jusqu'à présent,
ce serait quoi la deuxième ?
Ah, ça serait peut-être ces formes qu'on appelle Homo rhodesiensis, dont on pense que certains ont pu vivre jusqu'il y a environ 300 000 ans. Et dans le fond, on s'est habitué depuis quelques décennies à l'idée que autrefois il y a eu plusieurs espèces humaines contemporaines, ce qui est une situation très différente de la situation actuelle. Hein. Mais jusqu'à présent, ces espèces humaines différentes, eh bien, vivaient sur des continents différents. Elles étaient éloignées et surtout séparées les unes des autres. Ce qui est fascinant dans ce qui est en train d'être peu à peu dévoilé à propos de l'Afrique, c'est que sur le même continent, il semble y avoir cette coexistence. Coexistence ne veut pas dire forcément cohabitation dans un même endroit.
En tout cas, sur le même continent. Et c'est fascinant absolument parce que tout ça, c'est notre histoire ancienne. Et bien justement, on va poursuivre dans un instant avec notre invité archéologue. Et on vous remercie, Jean-Jacques Hublin. Bonne journée à vous à Leipzig en Allemagne. Et puis Axel, on se retrouve demain avec une nouvelle
lune. Oui, merci Jean-Jacques Hublin et à demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, le réchauffement climatique qui influence la qualité de notre alimentation. Une équipe chinoise de l'université de Tokyo a pour la première fois démontré que le rejet de gaz carbonique dans l'atmosphère a de graves répercussions sur le taux de nutriments présents dans les plantes et en particulier dans le riz. Les chercheurs redoutent en effet des effets dévastateurs pour la santé de la population asiatique pour qui 70% des calories, protéines et vitamines provient justement de sa céréale. C'est le scénario et s'il se confirme, l'utilisation de variétés de riz plus résistantes au changement climatique qui semblerait donc être l'une des seules solutions à l'avenir. L'homme provoque-t-il des cancers chez les animaux sauvages ? La question est posée par deux postdoctorants de l'université d'Arizona dans un papier publié dans Nature. Les jeunes chercheurs appellent urgemment la communauté scientifique à étudier le problème après avoir constaté que très peu d'études ont été réalisées sur le sujet. Certaines ont démontré que les animaux peuvent développer un cancer à cause de la pollution chimique, mais aucune recherche n'a été faite pour le moment sur les autres types de pollution d'origine humaine. Et puis enfin, les astronomes de l'Université d'Australie ont découvert un trou noir supermassif dont l'expansion est la plus rapide jamais observée. Situé à plus de 12 milliards d'années-lumière de notre planète, les chercheurs le définissent comme un monstre capable de dévorer l'équivalent en masse de notre Soleil tous les deux jours. Selon eux, ce type de trou noir jouera un rôle important dans la transparence de l'univers en ionisant les nuages de gaz autour de lui. Allez, l'invention de la guerre, c'est le dossier de l'émission dans un instant.
À la verticale dans l'immensité. pas, mon frère. Même si j'entends aussi l'orage s'éloigner, nos ivresses apaisées, la vie illimitée. Au-delà des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies.
C'était M avec Toumani et Sidiki Diabaté, Fatouma Diawara, et c'était Mani Toumani.
La tête au carré sur France Inter.
Anne Leurf, vous êtes archéologue et historienne, professeure des universités à Lille et spécialiste de la proto-histoire et de la métallurgie du bronze. Vous êtes également vice-présidente du Conseil national de la recherche archéologique. Et donc, vous arrivez avec ce livre chez Belin qui s'appelle « Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre ». C'est un ouvrage dans lequel vous revenez sur les origines donc, de nos ancêtres européens par le biais des armes pour évoquer donc, les conflits et les sociétés anciennes. Les auditeurs nous rejoignent avec les questions pour vous. Franceinter.fr et le mot-clé d'attaque. Rappelez-nous d'abord, Anne Leurf, où vous nous emmenez d'abord tiens, dans ce récit, parce que le cadre géographique est quand même assez vaste. Hein.
Oui, le cadre géographique est vaste, c'est l'Europe, on va dire, dans son ensemble, du Danube jusqu'à la pointe bretonne, jusqu'à l'Écosse vers le nord, la Scandinavie, très importante pour ce sujet, et puis jusqu'aux confins méditerranéens, sans oublier les Alpes, très riches également.
C'est une Europe qui ressemble beaucoup à celle que nous connaissons aujourd'hui,
oui,
ou pas ?
À cette époque, oui, on est là pour la naissance de l'épée, on est entre le XVIIe et le XVIe siècle. Les traits de côte sont à peu près ceux d'aujourd'hui, alors qu'aux époques plus anciennes, évidemment, c'est différent, mais ça ressemble à peu près à ce qu'on connaît.
Avant Jésus-Christ. Hein.
Avant Jésus-Christ.
On est d'accord.
On est tout à fait d'accord.
Qu'il n'y ait pas de malentendu sur le début de notre conversation, puisque vous êtes spécialiste de la proto-histoire. Alors justement, ça correspond à quelle période exactement ? Parce qu'on ne connaît pas bien cette période-là.
Non, c'est un mot compliqué, oui. Un petit peu encombré avec plusieurs définitions. Et donc, du coup, c'est ni la préhistoire du paléolithique, ni le temps de l'Antiquité marqué par d'autres épisodes et par l'écrit. On est donc dans une période intermédiaire qui commence avec le néolithique et le début de l'agriculture, la sédentarisation, l'élevage.
Donc, 10 000 ans ?
10 000 ans pour l'Europe, 10 000 ans en arrière pour une partie importante qui commence du côté du Proche-Orient. Pour l'Europe la plus occidentale, on est plutôt au 6e millénaire avant notre ère. Ouais. Et la proto-histoire se termine donc avec le premier siècle avant notre ère. Et donc, la période dont il est question ici autour de l'épée, c'est le cœur de cette période-là. C'est donc l'âge du bronze qui va de moins 2002 à 800 à peu près avant notre ère. Avec des petits décalages selon les régions, mais globalement...
Ouais. On retient bien. Donc, l'âge du bronze, parce qu'on va en parler pendant toute l'émission. Voilà. Donc, moins 2000.
Moins 2002.
Moins 2002 jusqu'à
800,
donc,
800 à peu près.
Et alors, c'est la période de l'oralité aussi. Hein. C'est ce qui marque finalement aussi cette époque.
C'est aussi pour ça que c'est assez compliqué, parce qu'effectivement, la documentation, les traces avec lesquelles on travaille, sont des traces exclusivement archéologiques. Oui. Donc, il n'y a pas de mots mots qui les gens ne se sont pas racontés par des mots. Donc ce sont les archéologues qui sont obligés de trouver des mots pour décrire des sociétés qui, elles, n'en ont pas laissé. Mmh. En revanche, on a des traces, alors parfois très abondantes, c'est un excès parfois même de documentation archéologique, et parfois c'est très lacunaire.
Qu'est-ce que vous appelez documentation archéologique, alors, pour être tout à fait précis?
Donc, ce sont toutes les traces. Alors, on a l'habitude de parler des objets, et souvent des beaux objets, et on en a, évidemment, pour ces périodes-là, mais ce sont également toutes les traces qui sont liées à la fabrication d'une tombe, à la fabrication d'une maison, dont il reste parfois des vestiges quand c'est de la pierre, mais quand ça a été des maisons en bois, comme c'est majoritairement le cas à l'âge du bronze, on a simplement la trace d'un trou de poteau qui un jour a existé.
C'est ça.
Voilà. Donc ça fait partie aussi de la documentation. Et aujourd'hui,
donc la terre, la
terre qui porte effectivement des informations et de la connaissance. Et aujourd'hui, en plus, on utilise beaucoup ce que l'on appelle les méthodes du paléo-environnement, c'est-à-dire que sont des traces, des pollens qui nous encombrent aujourd'hui dans notre quotidien, des graines, tous ces vestiges qui sont liés à l'environnement, le bois lui-même, des morceaux de bois, soit utilisés par l'homme, soit naturels, des charbons de bois, enfin voilà.
Un grain de pollen, ça peut être pour vous une pièce à conviction,
pièce à conviction dans une enquête, absolument. Ah oui. Alors, moi, ce n'est pas ma spécialité, il y a des gens dont c'est effectivement les palynologues qui étudient ce type de traces, qui sont capables d'arriver à retrouver la couverture végétale, forestière, de déterminer la part de la forêt, la part des champs, la part de ce qui est cultivé, la part de ce qui est sauvage. Donc voilà, ça fait effectivement partie de l'enquête, ça donne un cadre à la vie quotidienne de ces populations.
Ouais. Quels sont les outils modernes dont vous disposez aujourd'hui quand, par exemple, vous souhaitez précisément découvrir un site où il y a pu avoir des habitations, par exemple? Comment on fait pour repérer dans le sol, aujourd'hui évidemment couvert d'une autre végétation, des traces très anciennes comme ça?
Alors il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes, ce qu'on appelle non destructives ou non invasives, qui vont donc rester en surface. Parmi les méthodes très récentes, qui sont très intéressantes parce que on va au-delà du couvert forestier, il y a le LIDAR.
Ça, c'est un laser.
Qui permet effectivement de détecter un certain nombre de vestiges, pas tous les vestiges. C'est-à-dire que les grandes tombes de l'âge du bronze, qui sont souvent de grands cercles funéraires, eux peuvent être repérés par LIDAR.
On le met où, ce laser? On peut le mettre dans un avion, par exemple?
Oui,
c'est ça. Hein.
Donc, on a aujourd'hui des solutions techniques de plus en plus affinées et de plus en plus petites. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis on a des méthodes, je veux dire, plus classiques d'investigation qui sont, elles, tout simplement des sondages et des prospections. Donc là, qui vont porter atteinte au sol et qui vont permettre effectivement de détecter des traces de manière statistique qui permettra ensuite de réaliser une fouille archéologique.
Alors justement, dans cette Europe de l'âge du bronze, quels sont les hotspots pour les archéologues comme vous? Où est-ce qu'il faut aller pour trouver vraiment des choses intéressantes là?
Alors c'est une période... J'allais dire modeste. C'est une période qui c'est un monde d'agriculteurs, un monde de marchands, regroupés en villages, en bourgs, avec des grandes tombes et avec une occupation à l'échelle de l'Europe qui est très vaste. Donc on n'a pas de site aussi emblématique, par exemple, que l'on peut avoir pour le néolithique et le mégalithisme, qui ont été très bien conservés puisque les structures sont essentiellement en pierre. Et donc quand on a Karnak avec les alignements, c'est un petit peu difficile quand même de ne pas les voir.
C'est vrai.
Pour l'âge du fer, on a des grandes tombes très très riches. Je pense à Lavaux, je pense à Vix, qui se font donc des sites emblématiques où on a pour la fin de la période des habitats qui sont de vraies villes comme les oppidas. Là aussi, c'est très visible. L'âge du bronze est plus difficile à attraper d'une certaine manière. Alors, on a des grandes tombes qui sont effectivement des grands monuments très visibles. On a des habitats, quand c'est bien conservé, qui sont là aussi tout à fait intéressants quand ça a pu être conservé dans de la vase ou au bord de l'eau. Je pense aux habitats lacustres, par exemple, dans les Alpes, ou le site extraordinaire qui a été mis au jour il y a peu de temps en Angleterre, à Must Farm, où on est dans une zone marécageuse qui a permis la conservation des organiques. Donc on a les maisons en bois qui sont de plan circulaire, et on a encore les pieux, et c'est assez extraordinaire parce que ça s'est effondré. On a l'impression d'un mikado géant qui est tombé par terre.
Ouais.
Et là, effectivement, c'est très bien conservé.
Le bois est conservé?
Le bois est conservé, le tissu est conservé, c'est-à-dire qu'on a un instantané, ça fait figure d'école parce que d'habitude on n'a pas ça,
mais c'est ça donne quasiment à une voir. Photographie.
C'est
quoi,
une photographie, ça donne à voir tout ce
dingue.
Qui nous manque. Ouais. Surtout, c'est très frustrant parce que, enfin, c'est à la fois extrêmement intéressant et en même temps c'est très frustrant parce que ça nous laisse imaginer tout ce qu'on n'a pas.
Oui.
Donc ça, c'est, on a les paniers en osier, on a les vêtements tissés, on a tout. Oui. On a un instantané. Ça a été injustement appelé la Pompéi du Nord, mais il n'y a pas eu d'éruption volcanique, mais c'est un petit peu la même idée de cet instantané laissé en place.
Et des choses figées, donc, figées, et en parfait état. Figées,
avec une très belle épée, d'ailleurs.
Une très belle épée, voilà.
À Must Farm.
Alors, c'est bien, parce qu'on arrive sur notre sujet, justement, pour parler de la guerre. L'épée étant peut-être un des outils emblématiques hein, d'une époque qui marque, justement, les premiers conflits. C'est un peu comme ça qu'il faudrait l'entendre, Anne Lehrf.
Alors, c'est en tout cas un objet. Moi, je suis archémétallurgiste, donc j'ai eu à étudier beaucoup d'objets métalliques. Et des épées de ces époques-là, on en a des milliers et des milliers à travers toute l'Europe. Donc il y a quand même un moment où effectivement le chercheur est face à sa documentation et se dit « bon, ça doit bien vouloir dire quelque chose ». Je suis technologue, j'essaie de comprendre des chaînes opératoires, j'essaie de comprendre les artisans qu'il y a derrière la fabrication des objets, mais ces objets sont fabriqués dans un but particulier. Quand on a des épées, on peut difficilement concevoir que l'épée puisse servir à autre chose que d'aller attaquer, oui, porter atteinte, blesser, tuer.
C'est pas pour couper de la viande.
C'est pas pour couper de la viande, c'est pas pour aller se promener et ce n'est pas non plus pour aller à la chasse.
Oui. Donc là, on a vraiment un objet.
On a un marqueur.
Qui marque, voilà, quelque chose.
On a un marqueur, on a un jalon, en tout cas très net. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça dans une course à l'armement ? Il y a quelque chose, oui, de cet ordre-là.
Oui.
Parce que depuis cette date-là, depuis cette date-là, on n'a jamais cessé de continuer à inventer des objets spécifiquement dédiés à la guerre.
Oui.
Donc, de ce point de vue-là, effectivement, en Europe, entre 1700 et 1600, les hommes posent quelque chose dans le temps et dans l'espace, oui, de très fort.
On y revient dans un instant, évidemment, avec vous, avec les questions des auditeurs, parce que j'aimerais bien savoir, évidemment, si on peut considérer que la guerre commence vraiment à cette époque. Hein, donc, il y a beaucoup de questions qui se posent. On y revient dans un instant avec vous, Anne Lehrf.
To see you again, there's a few outstanding charges. Just before we check you in, let's see here. You left your passport in the mini fridge and a message with the Dessas. Here the picture isn't, oh, just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. You sleep on the balcony, okay? You and your guests have a pleasant stay. What a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will you need a driver out to Philly? Jason Isbell's here as well, and he seemed a little worried about you. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island. Don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb. Mr. Tillman, for the seventh time, we have no knowledge of a film that is being shot outside. Those aren't extras in a movie, they're a clientele. No, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb.
Father John Misty, c'était Mr. Tillman.
La tête au carré sur France Inter.
le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » C'est ainsi que l'égalité rompue fut suivie du plus affreux désordre. Il s'élevait entre le droit du plus fort et le droit du premier occupant un conflit perpétuel qui ne se terminait que par des combats et des meurtres. La société naissante fit place au plus horrible état de guerre. Le genre humain avili et désolé se mit lui-même à la veille de sa ruine.
Voilà un texte de Jean-Jacques Rousseau, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, 1755. Mais pour parler donc de l'âge du bronze, la proto-histoire avec notre invité Anne Loerff, et ce livre Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre, il est très juste finalement ce texte de Rousseau, parce qu'il nous parle vraiment de la naissance des sociétés, et c'est exactement ce qui se passe avec la sédentarisation. Pardon, c'est à ce moment-là que naissent aussi les conflits.
Alors, toute la question est de savoir où on place effectivement le curseur. Le texte est effectivement très juste. Est-ce que l'inégalité en tant que telle crée la guerre? Non pas la violence, parce que la guerre n'est pas la violence. La guerre inclut la violence, mais elle est porteuse d'un combat qui est légitimé par la société. Société qui se dote de moyens, qui se dote d'une économie, d'individus qui vont au combat, qui sont spécifiques. Donc on est sur des modèles qu'il faut évidemment affiner. Le néolithique et la sédentarisation génère. Alors on a longtemps pensé le néolithique comme étant un temps de société égalitaire et un temps de paix. On est aujourd'hui sur une vision, à travers les recherches actuelles, au sein desquelles on sait que la société n'est pas égalitaire, d'une part, et que d'autre part, il y a visiblement eu des moments de violence très forts entre certains groupes et certains individus.
Avant les épées donc.
Les épées. Toute la question, effectivement, est de savoir de quoi on parle précisément et ce que veut dire l'épée. Moi, j'ai voulu partir d'une documentation archéologique qui me disait une certitude. Quelque chose qui était une évidence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'épée, on ne peut avoir comme fonctionnalité directe que d'aller au combat avec l'épée. On peut, par ailleurs, tuer avec, j'allais dire, n'importe quoi. Des objets ou des outils qui existent effectivement au néolithique.
D'où la question, à quel moment la guerre aurait pu commencer vraiment?
Alors ça dépend de quelle guerre on parle, dans quel type de société on parle. Ce qui est certain, c'est que, en tout cas, ce que la documentation archéologique donne à voir dans les corpus que moi j'ai pu étudier, c'est que à ce moment de naissance de l'épée se met en place tout un système technologique, puisque le bronzier dédie son temps à la fabrication d'objets qui sont spécifiques à la guerre, pour des individus qui vont au combat et qui sont donc des porteurs d'épées et des porteurs d'armes, dans un système de société qui accompagne ça, qui porte ces réalisations et ces dynamiques, puisque pour faire une épée, pour faire des objets métalliques, il faut réunir en alliage cuivreux, en bronze, puisque la métallurgie naît avant l'âge du bronze. La métallurgie du cuivre existe dès le néolithique, ou la métallurgie de l'or, par exemple. En revanche, la métallurgie du bronze, des bronzes, apparaît avec cette période qui emporte le nom. Pour que ce soit possible, ça veut dire qu'il faut faire des échanges et des commerces à travers toute l'Europe, entre eux, de l'étain qu'il y a à certains endroits, mais pas beaucoup, du cuivre qu'il y a à d'autres en un peu plus grande quantité, et donc il faut à un moment donné que des individus organisent tout ça, mettent ensemble et créer cette céréalisation là. Donc ça veut dire que on n'a pas évidemment le jour et le nom du bronzier qui a fait tout ça, mais par déduction tout ça, ce sont des indicateurs effectivement qui nous invitent à penser que là il y a un moment extrêmement fort.
Romain nous dit sur franceinter.fr, vous dites Anne Loerff que l'épée a été inventée en Europe entre le 17e et 16e siècle, donc avant Jésus-Christ. Est-ce qu'il n'y avait pas d'épée en Égypte ou en Mésopotamie avant cela?
Alors il y a des épées, elles sont plus courtes. La caractéristique de l'épée européenne, c'est que c'est une épée longue, donc on est au-delà de 40 cm. On a des épées qui vont jusqu'à 80-90 cm. Et on est dans les représentations que l'on a, en particulier dans les pictogrammes scandinaves, on a un face-à-face entre deux individus. C'est-à-dire que c'est non seulement la création d'un objet, mais c'est la création également d'un mode de combat.
Ça s'est représenté?
Ça s'est représenté. Ouais. Ça s'est représenté.
Sur des poteries,
sur les pictogrammes. c'est-à-dire que ce sont des parois rocheuses qui sont dans le paysage et où on a la représentation de combat avec un face-à-face entre deux hommes armés, armés d'une épée, d'un bouclier, qui sont des hommes, ils sont en majorité ithyphaliques, donc le sexe est assez clairement identifiable. Ce ne sont pas des femmes qui sont dans des combats en face-à-face. Et on a ici une forme de duel qui est lié au combat et lié à la guerre. Ce que l'on connaît en Méditerranée pour des époques à peu près équivalentes, ce sont plutôt des combats en groupe sur des chars et l'épée n'est pas au cœur du combat, ce que l'on voit en Europe. Donc on a des données qui sont différentes et des combats qui sont différents.
Ouais. Est-ce qu'on peut déduire certaines choses de la place des femmes, tiens, justement, dans la guerre au temps de la proto-histoire?
Alors on peut déduire, en tout cas dans la documentation que l'on a, qui sont liées aux épées et qui sont liées au mobilier que l'on a et aux sites archéologiques, qu'il n'y a, au vu de la documentation, aucune place des femmes dans la guerre. On les a pas. On les a pas sur les représentations, sur les parois. On n'a aucune tombe à épée connue. Donc, pour ce qui est de l'Europe occidentale, nordique, on n'a pas de femmes.
Est-ce qu'elles auraient pu au moins participer à la panoplie du guerrier aussi?
C'est très difficile comme type de question parce que on a le résultat final. On a tendance à voir, à imaginer que le bronzier dans son atelier est plutôt un homme. Probablement aussi par analogie, par modèle ethnographique. Mais c'est vrai que les femmes sont extrêmement discrètes dans ce schéma.
Allez, d'autres questions d'auditeurs. Jean-Michel demande, quelle est la définition finalement de la guerre au néolithique alors? Qu'est-ce qui incarne le conflit?
Alors, la guerre au néolithique, je ne sais pas si on parle de guerre au néolithique, on parle de violence, on parle de massacre, avec, entre des populations, on est effectivement avec la naissance de la sédentarisation, la création de territoires fixes, avec une augmentation des pressions démographiques, donc un certain nombre de raisons qui peuvent effectivement aller pousser les hommes au combat, soit pour se défendre, soit au contraire pour conquérir. Donc ça, les facteurs existent. Dans la documentation que l'on a, on a des massacres d'individus ponctuels, mais réel, et on a des objets mixtes, c'est-à-dire qu'on a des objets qui peuvent servir d'outils, qui peuvent servir à la chasse, et avec lesquels on peut imaginer aller au combat. De là à imaginer, créer ou écrire et décrire par le menu une guerre en tant que telle, c'est évidemment beaucoup plus difficile. Donc, moi j'ai mis en perspective un petit peu dans le temps, regardant derrière l'âge du bronze, ce que l'on pouvait faire comme hypothèse. Mais je pars de la certitude que la guerre en tant que telle, elle est portée à l'âge du bronze.
Alors justement, Anne Loerf, Jacques demande, qu'est-ce qui a motivé justement ces premiers conflits à l'âge du bronze en particulier? La pression démographique, par
la
exemple,
pression
ça,
démographique.
C'est un, ça c'est un facteur, c'est, ça, il, y a c'est plus, un facteur. Il y a plus de population, donc ça engendre des conflits.
Ben, c'est-à-dire que probablement ça engendre des conflits, ça c'est parce que c'est facteur de pression démographique, c'est facteur de richesse, et qu'on donc, on trouve des raisons finalement classiques qui par la suite sont théorisées par Hobbes, par exemple, on a cité tout à l'heure Rousseau, sur les raisons de guerre, mais on trouve ces facteurs-là finalement dans les sociétés de l'âge du bronze qui sont très très peu différentes des nôtres. La compétition, la gloire, le profit, la défense, la conquête.
Rien n'a changé.
Pas grand-chose. Pas grand-chose.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre discussion. Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre. C'est chez Belin. Et vous en êtes l'auteur, Anne Loerf.
Ça t'a passé.
Entre le brouillard et le beau temps, entre le jour et la nuit, entre les larmes au vent ou le rire déconfit, mon cœur balance entre l'athlète et l'adolescent, entre le glaive et le vide, entre le diable et l'ange, aux formes rebondies, mon cœur balance. Entre les deux, mon cœur balance. Entre le coupable et l'innocent, au corps recouvert d'argent, de tous les noms que l'on crie, entre le jour et la nuit, mon cœur balance. entre les deux, mon cœur balance.
C'était la voix de Catherine.
La tête au carré.
Zeus les poussait à combattre. Ainsi les troupes troyennes, groupées par devant, par derrière, étincelantes de bronze, marchaient à la suite des princes.
Voilà Anne Lerf, l'Iliade, Homère, 8e siècle avant Jésus-Christ, pour parler aussi des armes, du bronze, le jour où l'homme inventa la guerre. Ça, c'est chez Benoît. Comment vous êtes arrivé d'ailleurs, vous, sur le terrain guerrier, si je puis dire les choses ainsi?
Par hasard ou par devoir, je ne sais pas. À force d'étudier des objets métalliques nombreux, par centaines, par milliers, parmi lesquels il y avait l'évidence d'armes. Donc il a fallu à un moment donné affronter cette réalité.
Ouais. Et donc ça vous a beaucoup intéressé, parce que ça racontait pas seulement des armes, ça racontait aussi des sociétés. Hein.
Ça racontait des sociétés, et ça racontait des sociétés en partant du matériau, de l'objet, du matériau. Moi je regarde à l'intérieur de la matière, donc ça racontait le bronzier qu'il avait fabriqué, on pouvait essayer d'imaginer son interlocuteur qui l'utilisait, et donc comme ça, de fil en aiguille, on pouvait essayer de remonter en partant finalement d'un petit rien à l'intérieur d'un objet à toute une société.
Ouais. Donc c'est l'histoire que vous écrivez, que vous interpréter aussi, d'abord. Hein.
Oui, à travers ces traces, à travers ces matériaux. Ça s'appelle de l'archéométallurgie. On parlait tout à l'heure des pollens. Chacun a des domaines spécialisés avec de plus en plus une place au laboratoire qui permet des investigations et des enquêtes extrêmement poussées.
Pour aller dans le bronze lui-même.
Pour aller dans le bronze, à l'intérieur.
Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on va dans le bronze,
justement? On voit de très belles choses, on voit de très belles images. Alors, on voit de la corrosion, parce qu'en général, quand même, ce sont des objets qui se sont un petit peu abîmés avec le temps.
Mais quand même, qui passent les époques assez remarquablement bien.
Les alliages cuivreux beaucoup mieux que le fer, qui souffre beaucoup plus, et moins bien que l'or, qui est relativement bien préservé encore. On voit des matrices métalliques, on voit des inclusions, on voit des allongements de choses étonnantes comme les sulfures. Donc ça donne des indicateurs sur la chaîne opératoire de fabrication.
Ouais. C'est fascinant, ça fait palpiter le cœur quand on est archéologue et qu'on a l'œil comme ça.
C'est un côté magique,
dans le matériau.
Ouais, c'est un côté magique, on est presque dans une peinture d'art contemporain, ça a un côté, c'est très très beau.
En plus c'est beau.
En plus c'est très très beau.
Il y a de l'esthétique,
il y a de l'esthétique,
et il y a de l'imaginaire.
Il y a de l'imaginaire et de la connaissance, donc tout est réuni.
Vous parliez tout à l'heure de milliers d'épées qu'on a retrouvées partout en Europe. Est-ce que ça laisse penser qu'il y a eu de vrais champs de bataille aussi sur le continent?
Alors il y a deux choses. Oui, il y a certainement eu des vrais champs de bataille. Alors aujourd'hui on en connaît un au nord de Berlin, qui est encore inexploré en partie, qui est le site de Tollens, où on a commencé par trouver des armes. On a fouillé, alors d'abord on pensait quelques dizaines d'individus, on est aujourd'hui plutôt sur plusieurs centaines.
Parce qu'il y avait des ossements aussi?
Alors on a des ossements, on a des épées, on a des restes de chevaux. Donc on a un immense terrain sur un sujet qu'on n'a pas tellement exploré en tant que tel. Les études sur la guerre, ce sont des études récentes. Les archéologues ont pris le sujet de front, en face, à partir simplement de la fin des années 90.
Oh, mais c'est très récent.
Donc c'est extrêmement récent. Donc on a des champs entiers à explorer. Peut-être qu'ils se sont auto-censurés. Ils n'ont pas osé parce que justement c'est un petit peu compliqué de rentrer dans les détails. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de possibles devant nous, et les champs de bataille en font partie.
Donc on regarde les ossements aussi avec attention, parce que les blessures peuvent aussi donner des indications sur le mode opératoire.
Tout à fait. Les ossements humains sont aujourd'hui extrêmement intéressants. Et puis l'autre type d'objet qu'on a, l'autre type d'information, ce sont toutes ces armes rassemblées dans des lieux un petit peu étonnants pour nous autres contemporains, que sont les dépôts métalliques. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des ensembles où il y a quelques objets, ou quelques fragments, ou alors des centaines d'objets d'épées, de lingots, de haches, pourtant d'un matériau recyclable. Donc au lieu de repasser dans un creuset de bronzier, alors que c'est un matériau rare et précieux, qui suppose une économie très dynamique, eh bien ça a été mis de côté, probablement pour des raisons cultuelles, religieuses, de dons aux hommes, aux dieux. Voilà.
Et ça, on a fait ces découvertes récemment ?
Alors, on a des découvertes anciennes de dépôts métalliques. On les découvre depuis le 19e siècle et on a gardé les objets. Parfois, par le passé, on a jeté des choses. Mais quand on a trouvé des épées au 19e siècle, on les a identifiées comme épées. Donc, on les a gardées dans les collections avant que ça ne s'appelle même l'archéologie. Aujourd'hui, on les cherche plus systématiquement parce qu'on s'aperçoit, quand on les fouille professionnellement, comme on sait le faire aujourd'hui, que les objets ou les pièces, les fragments, sont agencés de manière très construite les uns par rapport aux autres. Donc, il y a un langage du dépôt très particulier. Ouais. Tout n'est pas jeté en vrac, tout s'est très bien organisé, comme si c'était une tombe, sauf que c'est un rassemblement de fragments métalliques.
Ouais. Et ce langage, on le comprend parfaitement aujourd'hui.
Ce langage, on le comprend de mieux en mieux. Ouais. On a encore quelques petites pages à écrire sur le sujet.
Alors justement, un autre texte, on va faire un saut en Asie quelques instants, Anne Loerf, l'art de la guerre, Sun Tzu, 6e siècle avant Jésus-Christ, grand général chinois, justement, qui écrit, et c'est extrait des Nouveaux Chemins de la Connaissance.
Sun Tzu dit « Voici quelques maximes dont vous devez être pénétré avant que de vouloir forcer des villes ou gagner des batailles. Remporter les victoires par le moyen des combats a été regardé de tout temps par l'univers entier comme quelque chose de bon. » Mais, j'ose vous le dire, les habiles guerriers ne trouvent pas plus de difficultés dans les combats. Ils font en sorte de remporter la bataille après avoir créé les conditions appropriées. Ils ont tout prévu. Ils savent la situation des ennemis, ils connaissent leurs forces et n'ignorent point ce qu'ils peuvent faire et jusqu'où ils peuvent aller. La victoire est une suite naturelle de leur savoir. Aussi, les victoires remportées par un maître dans l'art de la guerre ne lui rapportaient ni la réputation de sage, ni le mérite d'homme de valeur. Avant que la lame de son glaive ne soit recouverte de sang, l'état ennemi s'est déjà soumis.
Voilà, culture chinoise, là, à l'instant, avec ce texte du 6e siècle avant Jésus-Christ. On a beaucoup écrit, justement, Anne Loerf, sur la guerre. Ça a beaucoup fait couler d'encre.
À partir du moment où l'homme a mis en place l'écriture, l'écrit, pour des raisons qui ne sont pas celles liées à la guerre, mais plutôt des raisons politiques et comptables, la guerre a effectivement été un sujet tout à fait inspirant pour les auteurs, qu'il s'agisse de l'Europe, de l'Antiquité européenne ou d'autres régions.
Et cette appellation, en tout cas cette interprétation, cette expression, l'art de la guerre, est-ce que ça veut déjà dire quelque chose à l'âge du bronze ?
Probablement, oui. Une manière de faire, parce que ça renvoie d'une certaine manière une guerre portée, organisée, pensée. Et évidemment, on n'a pas les mots pour les décrire, pour la décrire de cette manière-là. Mais oui, je pense qu'on peut, on peut en tout cas extrapoler. Vers l'âge du bronze européen.
Alexa, justement, sur Facebook, nous dit « Est-ce que l'apparition des élites à l'âge du bronze peut être une des causes de la guerre ou du moins des violences ?»
Alors, je ne sais pas si c'est la cause ou si c'est la raison de la poule et de l'œuf, lequel des deux. En tout cas, les élites économiques et politiques portent évidemment la guerre à l'âge du bronze. Ça, c'est une certitude.
Et ça, c'est une des grandes modifications de la société aussi à l'époque. C'est l'établissement justement de ces élites
D'une certaine forme d'élite, puisqu'on mentionnait tout à l'heure au néolithique, les sociétés ne sont pas égalitaires. Donc, il y a des formes d'élites, mais des élites économiques et politiques qui organisent un certain nombre de secteurs et de divisions du travail, dont ce secteur très particulier de la guerre. Oui, ça c'est effectivement très clair à l'âge du bronze.
Allez, encore deux questions qui me viennent à l'esprit, Anne Loerf. D'abord, effectivement, qu'est-ce qu'on fabrique d'autre à l'âge du bronze quand même? Et puis la panoplie du guerrier, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a retrouvé aussi? Alors, il ressemble à quoi ce guerrier de
Alors, ce guerrier,
la proto-histoire
Ce guerrier, il a une arme offensive qui est l'épée, symbolique et très forte, mais il a également des armes défensives, probablement en matériaux organiques dans un premier temps. On a des boucliers en cuir, par exemple, très bien conservés dans des tourbières dans différentes régions, en Irlande, au Danemark, je pense. Et puis, on a ensuite une panoplie défensive qui est métallique, qui est également en bronze, casque, cuirasse, protège-jambes, avec des casques tout à fait étonnants. Alors, en Scandinavie,
on en a même...
Alors, en Scandinavie, on a des casques assez extraordinaires à la fin du deuxième millénaire, avec une espèce de corne assez effrayante, des gros yeux, où on devait faire peur.
On essayait d'impressionner aussi l'ennemi.
Et puis, du côté de la France, on a des casques avec des ailerons et des portent quelque chose qu'on imagine être des plumes, qu'on a découvert depuis le 19e siècle en particulier, ouais. Et qui ont servi avec une histoire magnifique et assez rocambolesque au prototype du casque d'Astérix.
Voilà.
Tout simplement.
Exactement.
Tout simplement.
Le porte-plume, donc. Ça...
Voilà, tout à fait. Ça naît à l'âge du bronze.
C'est ça.
Petit anachronisme, mais finalement, ouais. L'histoire est jolie.
Oui, absolument. Donc cette cuirasse, cette panoplie, elle est là et on peut la reconstituer avec tout ce qu'on a retrouvé un peu partout. Hein.
Alors,
là aussi, on a une belle photographie finalement.
On a une belle photographie. Hein. Alors, est-ce que tous les guerriers avaient exactement la même panoplie?
Oui.
C'est pas sûr.
Selon les cultures, ça devait changer un peu.
Voilà,
quand même.
Mais on a des ensembles en tout cas, et dans les ensembles, on voit bien qu'il y a une identité qui est à la fois en fait un prototype standard de la cuirasse et probablement une adaptation quand même à l'individu qui la portait et qui devait peut-être accompagner le bronzier dans son atelier pour la fabrication. Ouais. Et...
Alors justement, qu'est-ce qu'il fabriquait d'autre le bronzier? Alors, il faisait pas que des armes quand
non,
même.
Non, il faisait pas que des armes. Les populations de l'âge du bronze ne sont pas que belliqueuses.
Voilà.
Les bronziers faisaient une très très belle vaisselle métallique à un moment où ils faisaient des cuirasses et des casques. Ils font des épingles également pour attacher
C'était
les vêtements.
C'était pour emporter de la vaisselle solide sur le champ de bataille ou pas?
C'était
ça, a priori,
pas
ça servait
forcément
à quoi?
Ça, mais ça pouvait servir au banquet. La batterie de cuisine née avec le néolithique et la céramique du néolithique. Mais la batterie de cuisine en quelque sorte est raffinée avec l'âge du bronze. Et on a de grandes vaisselles qui servent à la consommation de liquide, à la conservation et probablement donc au banquet, et certaines d'entre elles finissent dans les tombes.
Ouais. Et ce sont quand même, il faut le dire, des grandes périodes d'innovation technologique quand même. Hein. Ça va à une vitesse folle.
Hein. Ça va à une vitesse folle, et puis surtout ce sont des innovations techniques majeures qui n'ont ensuite jamais été remises en cause. C'est-à-dire que les bronziers d'aujourd'hui
travaillent exactement de la même manière.
Ils sont parfois extrêmement impressionnés par les productions de leurs très 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 lointains ancêtres.
Ouais.
Ils sont très admiratifs de savoir-faire de très très haute technologie.
Quel est le site sur lequel vous travaillez à Neuf, où vous allez aller travailler? En tout cas,
Alors en ce moment, je travaille au laboratoire sur une cuirasse encore, il faut les finir, qui est conservée au musée de l'armée aux Invalides, et voilà, qui est riche d'informations et qui vient confirmer un certain nombre d'hypothèses qui ont été faites sur d'autres cuirasses et d'autres objets.
Merci beaucoup de votre venue cet après-midi dans La Tête au Carré pour évoquer donc de cette époque où l'homme a inventé la guerre. C'est l'objet de votre ouvrage qui s'appelle Par les armes et qui paraît aux éditions Belin. Merci beaucoup, Anne-Laure.
Merci à vous.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Vous nous parlez aujourd'hui du jeûne ou du jeûne d'ailleurs? Comment on le prononce?
Oui, des jeûnes et pas des jeûnes.
Alors
Des jeûnes. La privation de nourriture ou de boisson. Et il faut aussi en parler au pluriel car il existe de nombreuses variantes du jeûne, à commencer par les jeûnes religieux.
Et nous sommes en plein ramadan.
Hein. Exactement. La religion musulmane est la plus stricte sur le plan du jeûne, qui dure un mois mais permet heureusement de manger et boire la nuit. Alors les juifs doivent s'abstenir de manger et boire pendant 25 heures à l'occasion du grand pardon. Alors les chrétiens finalement s'en tirent le mieux avec un jeûne limité le vendredi saint, qui ne concerne d'ailleurs que la viande et l'alcool. Ces trois jeûnes religieux portent une symbolique de purification spirituelle par la privation et la pénitence. Le problème de santé qu'ils posent est quasi exclusivement dû à la privation d'eau qui peut être rapidement problématique en cas de température élevée.
Ouais.
Ces religions précisent toutes que le jeûne ne doit pas être pratiqué en cas de contre-indication médicale. Chez les musulmans qui travaillent malgré le jeûne, le problème est que la durée du jour est particulièrement longue en juin sous nos latitudes et il faut vraiment insister sur le fait que le dogme religieux incite à ne pas mettre sa santé en danger.
Et la purification du corps, alors Dominique?
Eh bien, c'est l'autre jeûne dont je voulais vous parler qui ne concerne que la nourriture et non la boisson. L'objectif est là encore une purification, mais elle concerne cette fois-ci le corps qui serait gorgé de toxines et qu'il faudrait donc purger à intervalles réguliers comme on essore et rince une serpillière sale. La similitude avec la purification de l'esprit et l'évacuation des péchés par le jeûne religieux n'est pas une coïncidence, ça nous parle, même si c'est plutôt faux quand même.
Pourquoi faux?
Parce qu'en fait, toxines, il s'agit surtout de graisse et que c'est plus une surcharge qu'une réelle toxicité qui est en cause. En fait, le jeûne permet de diminuer un éventuel excès de réserve. Alors, notre organisme est d'ailleurs parfaitement adapté au jeûne. Et puis heureusement, parce que nos ancêtres, ils étaient loin d'avoir à manger tous les jours. Contrairement à une croyance répandue, y compris chez mes confrères, le jeûne ne fatigue pas, au moins pendant les 15 premiers jours. Et puis heureusement, car c'est justement le moment où nos ancêtres devaient redoubler d'efforts avec leur hache pour trouver à manger. Beaucoup d'adeptes décrivent d'ailleurs un sentiment de puissance et de bien-être pendant leur période de jeûne.
Bon alors, c'est bon ou pas finalement? Qu'est-ce qu'on peut en dire?
En fait, on ne sait pas. Les données chez l'humain ne sont pas probantes. On a longtemps cru, surtout en France, que le jeûne attaquait nos muscles et nos protéines après quelques heures, une fois les réserves de glucides épuisées. Mais c'est bien plus compliqué que ça et les graisses sont bien sûr très sollicitées. Le jeûne ne pose en fait aucun problème chez la majorité des sujets en bonne santé jusqu'à 3 semaines chez les plus aguerris. Il devient en revanche dangereux au-delà de la 4e semaine. Alors, pour ce qui est des bénéfices, c'est la même inconnue. Cette pratique est avant tout une méthode de développement personnel. Elle ne peut en tout cas pas être recommandée pour maigrir, ça ne marche pas à long terme, car en tapant dans les réserves, on encourage l'organisme à les augmenter pour faire face à ce qu'il croit stupidement être une famine, car sa préoccupation principale, c'est de survivre.
Merci beaucoup. Dominique, on se retrouve la semaine prochaine.
À jeudi.
Chronique à réécouter sur franceinter.fr.